Arthur Hage, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu jusqu'à Bordeaux pour nous présenter Fugue, les éditions Mercure de France. Il y a une bande-annonce, vous avez fait une bande-annonce qu'on peut voir sur Internet, comme cinéma, qui présente ce livre qui est une histoire de fugue à trois voix. On peut dire ça ?
Oui, on pourrait dire ça.
Donc il y a la voix de la fugue, l'art de la fugue de Bach, la fugue de votre maman et la vôtre.
Voilà, c'est ça.
Laquelle a donné le top départ du livre ?
La fugue de ma mère, parce que alors juste pour expliquer brièvement, c'est une collection qui s'appelle 13 et portraits. Et Colette Felou, l'éditrice, m'a proposé de faire un livre. Et c'est une collection qui a un peu à tonalité autobiographique, mais on peut tourner autour. Et aussi iconographique, c'est-à-dire qu'il faut amener des photos ou faire ce qu'on veut. En fait, si on veut faire des dessins, on peut faire des dessins, mais il faut qu'il y ait des images, en fait.
Une très belle collection dans laquelle beaucoup d'artistes se sont prêtés à cet exercice.
C'était le premier numéro, c'était Le Clésio, qui a fait un très beau livre. Et puis, il y a plein d'autres. Et puis, voilà, bon. Et quand elle m'a dit ça, Colette, moi, je n'avais pas trop envie de faire de l'autobiographie parce que ça ne m'intéresse pas spécialement de parler de moi. Mais par contre, ma mère m'avait raconté cette histoire extraordinaire. Vraiment, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, d'une fugue qu'elle a faite la nuit de ses 18 ans. La nuit de ses 18 ans, elle s'est enfuie et elle s'est retrouvée en Corse, dans le maquis. Donc, ça m'a vraiment fait fantasmer, cette histoire. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait dans le maquis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, au fur et à mesure, les souvenirs sont remontés. Au début, elle avait oublié plein de choses et puis elle s'est rappelée de plus en plus précisément. Et j'ai trouvé cette histoire très, très belle d'une jeune fille et ses amis. Et alors, c'est vrai que c'est ma mère, mais ça pourrait être une autre personne et je trouverais l'histoire tout aussi belle. Voilà, une jeune fille et ses amis dans une banlieue parisienne vraiment triste, quoi, morne ou étouffante, où rien n'est possible, tout paraît absolument impossible, où les adultes vous font très vite comprendre qu'il n'y a qu'une seule voie, c'est rentrer, de baisser la tête, courber les chines, et c'est tout, il n'y a pas d'autre alternative. Donc ces adolescents étouffent, et ils décident de la seule solution pour ne pas mourir, de s'enterrer vivant dans cette banlieue, c'est de s'enfuir. Voilà, donc de passer du jour au lendemain, en fait, de cet endroit morne où rien n'est possible, au maquis corse, où ils se cachent et où ils survivent sans rien, sans nourriture, sans affaires, sans argent, sans rien en fait. Voilà, c'est des enfants sauvages, quoi. C'est ça qui m'a touché, c'est que tout d'un coup, ma mère, on a tous des mamans, et tout d'un coup, de réaliser que ma mère a été aussi une enfant sauvage, qui a été libre, qui a conquis rudement sa liberté, et qui a vécu une aventure, une vraie aventure en Corse, dans une Corse comme la Corse des années 50. Déjà que la Corse, aujourd'hui, ça peut être assez rude, c'est tout ça, mais à l'époque, ça l'était encore plus. C'était vraiment un endroit où on pouvait se cacher. On peut toujours s'y cacher, je pense, mais à l'époque, encore plus.
Et alors, c'est rigolo parce que vous racontez ça en disant finalement, tout d'un coup, ma maman a été jeune et j'en ai pris conscience. Il y a un côté très Peter Pan dans ce livre quand même. D'abord, vous prenez tous le bateau, quasiment, à un moment donné ou à un autre. Ouais. Et il y a ce côté de la quête de l'émancipation qu'on retrouve aussi dans votre fugue et dans la fugue de votre maman. Il y a un côté conte vraiment d'enfance puisque vous racontez cette histoire à Jean-Sébastien Bach.
Oui, tout à fait. Oui. J'étais pas très loin d'ici, dans les Landes. Et j'étais dans une petite roulotte qu'un ami m'a prêtée, que j'ai mis dans un champ sauvage. C'était très, très bien. Et puis, j'aime beaucoup Bach depuis toujours. Je l'écoute beaucoup. Et là, j'ai commencé à étudier sa vie un peu et sa musique aussi. Et comme il a fait cette œuvre que je connais, que j'écoute depuis vraiment très longtemps, qui s'appelle L'Art de la Fugue, qui n'est pas une des œuvres les plus faciles de Bach, parce qu'elle est vraiment très abstraite. Elle est, comment dire, c'est vraiment de la musique abstraite, c'est pas du tout de la musique démonstrative, c'est pas forcément émotionnel non plus, c'est méditatif, c'est des lignes musicales qui s'entremêlent, qui se mélangent, c'est de la musique, je sais pas comment dire, abstraite, c'est le meilleur mot. Et ça s'appelle l'art de la fugue. Donc pour moi, le lien avec la fugue et la fugue était immédiat. Et puis à un moment, je cherchais un moyen de mélanger ces histoires. Et puis c'est là que Jean-Sébastien Bach m'est apparu. Et il m'a demandé de lui raconter l'histoire. Donc je lui raconte l'histoire personnellement, enfin son ectoplasme, quoi, parce qu'il est mort depuis longtemps.
Il y a beaucoup de croisements, parce qu'il y a aussi le fait que donc là, vous imaginez que vous rencontrez Bach, et puis dans votre fugue à vous, vous vivez une expérience sensorielle qui vous ouvre tout un univers justement de l'imaginaire.
Ouais, tout à fait. Quand je finis l'histoire de la fugue de ma mère, qu'on va pas trop révéler, parce que s'il y a des gens qui veulent lire le livre, ce serait dommage, mais qui est quand même assez, qui a un côté assez dramatique en fait. C'est dur, quoi, parce que la vie était dure à l'époque et pour des gens qui avaient pas de moyens, qui étaient livrés à eux-mêmes, c'était vraiment une existence difficile, quoi. Mais par évidemment très belle aussi, très pure, quoi. En fait, c'était des gens purs, en fait. Ils avaient que leur cœur, leur âme, et c'est tout, quoi. Donc voilà, c'est rude, quoi. C'est une fugue qui est rude. Et puis quand je finis de raconter cette fugue à Jean-Sébastien Bach, il en veut encore. Il n'en a pas assez, donc il me dit, mais raconte-moi un autre truc. Il dit, bah, moi aussi j'ai fait une fugue. Ce qui est vrai, malheureusement, j'ai fait une fugue et je raconte ma fugue.
Ouais. Dans cette fugue, ouais, vous faites une expérience, c'est la même chose, on ne va pas trop en raconter, mais vous faites une expérience qui quand même pourrait presque être la genèse de votre travail. C'est une expérience un peu en 3D, images, sons,
ouais,
mots.
Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, j'étais en Guadeloupe dans les années 80, et puis dans un contexte, voilà, j'étais pour la première fois en vacances avec mon père, et à un moment, un après-midi, juste trois jours avant notre départ, et notre retour en France, il me propose l'après-midi une omelette aux champignons, qui n'étaient pas des champignons de Paris, ni de Bordeaux, mais des champignons qui poussent là-bas sur les bousses de vaches et qui sont des champignons hallucinogènes assez, assez puissants, quoi. Donc j'avais 15 ans et au début j'ai refusé, puis finalement j'ai accepté. Et voilà, j'ai fait effectivement mon père baignait encore un petit peu, enfin même beaucoup d'ailleurs, dans la culture hippie, en fait. Et dans cette culture hippie, c'était presque nécessaire de faire des expériences qui étaient censées ouvrir la conscience, en fait. En tout cas, la secouer assez sérieusement. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on a toutes ces belles musiques, qu'on a les Beatles, qu'on a Jimi Hendrix, qu'on a Miles Davis. Il n'y a pas tout ça sans exploration de la conscience. Donc voilà, j'ai fait ça, puis c'est une expérience qui était vraiment très forte et évidemment très très perturbante, de tout d'un coup de ne plus être dans un monde solide, de ne plus être dans un monde qu'on contrôle, d'accepter complètement de perdre le contrôle. C'était fort. Le fait aussi d'être dans la nature, dans la jungle, en fait, enfin, en tout cas, la jungle c'est un grand mot, mais quand même dans un univers tropical. C'était très très magnifique, parce que quand on prend ce genre de drogues, quand même, qui sont des drogues naturelles, qui sont pas des drogues chimiques comme l'héroïne ou la cocaïne, où là c'est très urbain, c'est très dur comme drogue, ça rend paranoïaque, ça affaiblit considérablement les gens qui prennent ces drogues là. Par contre, bon, c'est vrai que les champignons ou les lianes, l'ayahuasca, tout ça, c'est quand même une façon pour d'autres cultures de vraiment de communier avec la nature. Et c'est vraiment ce qui se passe d'ailleurs quand on comprend ça, parce que ça efface un peu la distance entre soi et la nature, et on peut ressentir les choses d'une manière beaucoup beaucoup plus sensorielle. Et du coup, voilà, j'étais très très étonné de découvrir justement un monde de sensations possibles que je ne connaissais pas du tout. Dans cette nature luxuriante, ces grands arbres, ces plantes incroyables qui, tout d'un coup, j'avais l'impression qu'elles prenaient vie, en fait, devant moi. Et puis voilà, après, je ne pouvais pas imaginer retourner dans la France grise au lycée où j'ai un peu lâché prise au lycée. Et du coup, je suis resté, voilà.
Il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de points communs entre ces trois histoires qui sont vraiment très proches. Alors, il y a aussi le point commun du corps. Il est beaucoup question de corps de façon différente. Hein. Vous racontez que Bach est obligé de marcher énormément. Votre maman, c'est physiquement aussi qu'elle va vivre cette expérience de plein de façons différentes. Vous, vous avez un rapport au sensoriel tout d'un coup qui est très fort. C'est vraiment un livre qui est une exploration de tout ce que peut vivre le corps.
Oui, c'est vrai. Oui, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que pour moi, le corps, c'est l'esprit. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans notre culture occidentale, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs fondamentales. Et une des plus grandes erreurs, c'est de séparer le corps et l'esprit. Il y a l'esprit, il y a l'intellect, il y a l'âme. Avant, alors, à l'époque, on était très religieux. L'âme était pure et le corps était impur. Mais en fait, en vrai, c'est la même chose. C'est-à-dire que le corps est une émanation de l'âme. L'âme est aussi quelque chose de physique, de sensoriel aussi. Donc, c'est toute expérience spirituelle est une expérience physique, en fait. Enfin, métaphysique de vie, quoi. C'est, pour moi, le corps donne vraiment une réalité, une profondeur à toute l'expérience qu'on a la chance de vivre. Et Bach, alors Bach, c'est encore autre chose, parce que... c'est une époque, il a eu 25 ans en 1700. Et c'est une époque vraiment très, très rude, là, du coup, où non seulement bon, le corps est très présent, plus que nous, évidemment, mais aussi, surtout, la mort, en fait. La mort est toujours en train de rôder autour de lui d'une façon très... Elle est très, très extrêmement présente. Ils font beaucoup d'enfants et beaucoup d'enfants meurent. Donc, il y a quelque chose comme ça, une espèce de proximité avec la mort qui est constante. Et ce que je trouve fascinant dans la vie de Bach, c'est justement ce flux de décès, de mort. Par un moment, il part en voyage parce qu'il a un travail. Et quand il revient, sa femme est morte. Quoi. Voilà. Quand il est parti, il était en bonne santé. Il s'aimait, il commençait à avoir des enfants. Ils étaient assez jeunes. Il revient, il n'y a plus de femme. Quoi. Elle est morte. C'est terrible. Il l'aimait. Les enfants, c'est pareil. Il a eu 11 enfants qui sont morts. Ça fait quand même beaucoup. Il est orphelin à 10 ans. Alors, il y a un truc, c'est vrai que c'est un peu humour noir, mais c'est un peu horrible. Parce que son père... donc, sa mère meurt. Son père se remarie 6 mois plus tard, parce qu'ils sont un peu obligés, en fait. C'est pas comme... C'est pas vraiment le choix, quoi. Il y a des femmes, et puis il y a aussi beaucoup de femmes qui sont des veuves. Or, elle, et la femme avec laquelle il se remarie, est déjà une double veuve. Et quelques mois après s'être marié avec cette femme, le père de Bach meurt. Donc, la pauvre femme, elle est triple veuve, comme ça, bam, bam. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est dingue. Et là, Bach donc est orphelin à 10 ans. Il part chez son frère, un de ses grands frères, qui lui apprend la musique à la dure, vraiment. Il y a des très belles histoires entre lui et son frère, mais assez dures aussi, parce qu'il y a une histoire que j'aime, enfin, qui me touche beaucoup, parce qu'on sait très peu de choses de Bach, parce que c'est devenu un espèce de grand personnage historique, officiel, comme Beethoven ou Léonard de Vinci, ou ça, des grands génies de l'art occidental, et du coup, on a du mal à saisir l'homme derrière, ou le petit garçon. Et donc il arrive chez son frère, il est déjà bon musicien, tout petit, et il voit une énorme bibliothèque remplie de manuscrits de musique. À l'époque, la musique est rare, en fait. Il n'y a pas de magasin où on va acheter des partitions, il n'y a pas d'internet. Toutes les partitions qui sont là ont été amenées par des voyageurs et recopiées à la main. Donc chaque partition est très précieuse, quoi, parce que voilà, on sait qu'en Italie il y a une grande créativité musicale. Il y a Vivaldi, mais il y en a plein d'autres, Corelli. Il y a plein de grands musiciens classiques qui inventent des choses, qui inventent des nouvelles langues. Donc les Allemands sont très comment dire, très très curieux de la musique italienne, de la musique française, et un voyageur qui arrive avec une nouvelle partition, c'est un cadeau. Donc le frère, il a accumulé une bibliothèque. Et Bach veut, le jeune Bach, Johann, veut absolument découvrir ça. Et son frère lui interdit, lui dit non, tu dois d'abord faire ton apprentissage. Tu n'as absolument aucun droit de regarder ces partitions. Et vers 11-12 ans, la nuit commence à se relever. Et toutes les nuits, avec la lueur de la chandelle, bien sûr, il recopie les partitions. Il entend la musique, ça lui ouvre. Il l'entend en l'écrivant, parce qu'il a déjà cette capacité à entendre la musique en la lisant. Et ça lui ouvre des portes incroyables, artistiquement, musicalement. Il découvre la musique italienne et tout ça. Et puis il cache tout ça, parce que c'est à la dure, hein, c'est à l'allemande, ça rigole pas du tout, quoi. Et un jour, son frère le découvre, hein, découvre ça. Et lui fait tout brûler, tout ce qu'il a recopié. Il lui dit pas, c'est génial, ouais, ok, t'as pris plein de trucs. Il lui dit, tu vois, c'est punition, quoi. Tu brûles tout ce que t'as fait. Voilà, c'est pour expliquer un peu le climat. Mais moi, je trouve ça beau d'avoir un enfant, quand même 12 ans, c'est petit, qui la nuit écrit recopie en cachette les trucs qu'il va voler dans la bibliothèque, qu'il remet soigneusement. Et à 15 ans, son frère lui dit, bon, voilà, c'est fini, je peux plus te nourrir, donc il faut partir. Et c'est là qu'il fait un de ses deux grands voyages à pied. Enfin, il en a fait plus que ça, mais où il traverse l'Allemagne à pied à 15 ans. Et comme moi, j'avais 15 ans quand j'ai fait la fugue, j'ai fait un vague rapprochement de ce que c'est de partir à l'inconnu. Alors lui, c'était plus dur parce qu'il allait dans une école dans le nord de l'Allemagne qui était pour les enfants pauvres, dans laquelle il ne savait même pas s'il allait être pris. Mais... voilà, j'ai aimé imaginer cette adolescente de 15 ans qui, comme Jean-Sébastien Bach, partir à l'aventure à pied.
Et vous avez beaucoup d'empathie, hein, pour tout ce que vous racontez sur Jean-Sébastien Bach. Vous avez beaucoup d'empathie pour ce personnage qui n'est pas compris à 12 ans quand il recopie ses notes de musique, qui est dans un climat comme ça... assez morbide. On sent que, en fait, vous avez une forme d'attachement qui est liée aussi au lien affectif. Vous faites beaucoup de recoupements avec l'importance du lien affectif. Et on sent dans votre écriture que ce ne serait pas possible pour vous d'envisager des liens aussi fragiles avec les gens que vous aimez.
Oui, mais c'est vrai que... Alors, de Bach, en vrai, on connaît très peu de choses, mais parce qu'il a... Les seules lettres qu'on a de lui, par exemple, c'est des lettres de plainte, parce que les artistes à l'époque dépendaient beaucoup des aristocrates. Et les aristocrates étaient très capricieux. Donc des fois, ils payaient, des fois, ils ne payaient pas. Des fois, ils répondaient pas parce qu'ils s'en foutaient. Et les artistes étaient obligés d'écrire des lettres dans le langage de l'époque, qui était un langage de soumission. Et il fallait vraiment se courber, faire des compliments. Et puis, mais avec, alors elles sont très drôles, ces lettres. C'est comme les lettres de Léonard de Vinci. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est super soumission, quoi. C'est soumission intégrale, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et en même temps, tu sens une colère sourde en part en dessous, parce qu'ils ont conscience aussi de leur génie. Et aussi, parfois, de l'inanité des gens en face, quoi, des gens en face qui ont tous les pouvoirs, mais alors il y a des aristocrates éclairés, puis d'autres qui sont pas du tout éclairés, quoi, mais qui ont quand même tous les pouvoirs, ce qui est peut-être le cas aujourd'hui aussi, et que toujours, c'est pas... En tout cas, voilà, c'est le seul truc qu'on connaît, c'est des lettres où des fois il a vraiment beaucoup de mal à masquer sa colère, quoi. Il réclame des trucs qui viennent pas, après il les re-réclame, après il les re-réclame, il a bien les boules, quoi. Donc ça le rend humain aussi, mais ce qui est très touchant chez lui, juste pour finir avec ça, c'est donc il y a ce flux de décès et en même temps ce flux de création continue qui est juste dingue en termes de volume de création et d'œuvres géniales. Tout n'est pas génial chez Bach parce qu'il produit tellement, mais il produit tout le temps en fait. C'est la musique à partir du moment où il commence à composer très tôt jusqu'à sa mort à 50 ans. La création ne cesse jamais. Donc, et sa musique est une célébration de la vie. Donc c'est vrai que ça me touche beaucoup.
Ouais. Vous avez aussi beaucoup d'empathie pour votre maman, hein, dans cette fugue. C'est une histoire incroyable quand même. Je trouve que ce personnage tel que vous le racontez dans votre livre n'est pas sans évoquer la boxeuse amoureuse, la castière du super, qu'il y a à la fois de la violence et en même temps de la délicatesse dans des personnages féminins, mais il y a surtout de l'admiration.
Oui, il y a beaucoup d'admiration pour un courage, en fait. L'histoire, elle est difficile parce qu'elle, elle sent qu'elle est d'un autre monde, d'une autre époque, qu'elle est déjà libre à l'intérieur. Mais sauf que cette liberté-là, personne ne la lui donne. C'est pas aujourd'hui, disons, une jeune fille qui veut être libre, elle est libre plus ou moins, à part si elle vient d'un milieu très particulier ou très contraignant. Mais sinon, voilà. À l'époque, non, une jeune fille n'a aucun droit. Donc, pourtant, elle sent à l'intérieur qu'elle a cette liberté en elle, quoi. Donc après, voilà, faut le courage de la vivre, en fait, cette liberté de l'assumer face à un environnement qui est hostile, en fait.
Vous écrivez à un moment donné dans votre livre que les femmes à ce moment-là sont coupables par nature et qu'elles ont intégré cette idée.
Oui, ça c'est parce qu'il y a un peu une histoire de viol dans le livre et le viol à l'époque était une faute de la femme. C'est une femme qui était violée, c'était vraiment de sa faute, quoi. C'était elle qui était coupable de ça, quoi. Donc, de s'être fait violer. Et puis l'homme, voilà, bon, on pouvait lui en vouloir un petit peu, mais ça passait assez vite. Évidemment, il y avait très, très peu de, ou pas du tout, de procès de viol. Et puis, par contre, s'il y avait un procès, on était certain de le perdre. Parce que forcément, le juge, à un moment, dirait, mais enfin, vous l'avez bien cherché, quand même. Voilà, c'est un peu de votre faute aussi, quoi, ce pauvre gars... Et il a juste suivi son instinct, et puis vous l'avez amené dans ce chemin-là. Donc voilà, les femmes ont tout à fait intégré une position comme ça, où tout simplement elles n'ont aucun droit, en fait. C'est vrai que c'est dur à imaginer aujourd'hui. Mais...
Pour le destin aussi, il y a cette histoire-là, mais il y a aussi le fait qu'en fait, on ne lui propose pas beaucoup d'ouverture. Dans les années 50, en fait, cette femme, elle accepte que... Enfin, elle devrait accepter qu'on a tracé un chemin pour elle.
Oui, dans ce milieu-là, le seul destin pour une femme, c'est d'avoir un bon mari, quoi. Voilà, c'est tout. Trouver un bon mari, c'est ce qu'on peut lui souhaiter de plus intéressant, de meilleur... Ou à la limite, si on est plus exigeant, d'être institutrice. Voilà, si on est vraiment à un niveau intellectuel un petit peu, on va être institutrice, s'occuper des enfants, mais c'est tout, quoi. Voilà, mais dans le meilleur des cas, on va trouver un mari qui est employé, qui a un salaire un peu supérieur à un ouvrier. Et puis là, on est peinard, on fait des enfants, puis voilà, ça roule. Et...
C'est aussi pour cette raison que vous aviez envie de raconter cette histoire ?
Non, parce que moi, je suis quand même un poète. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est la beauté des histoires, en fait. C'est les images que ça procure. C'est pas faire une leçon de morale ou dénoncer quelque chose. Après, il y a aussi une histoire de célébration, quoi. C'est sûr que c'est de célébrer un courage féminin, ça, oui. Ça, parce que je trouve ça beau aussi. Je trouve ça beau, le courage féminin. Il est remarquable, il a sa particularité. Il y a évidemment le courage masculin aussi, qui est très beau aussi. Mais c'est vrai que le courage féminin peut-être me touche plus, en fait, plus touchant pour moi. En tout cas, m'inspire plus artistiquement aussi.
Comment elle vous a raconté cette histoire, votre maman, tout d'un coup ? Vous écrivez aussi dans votre livre que vous êtes dans une famille dans laquelle on ne parle pas beaucoup. On ressent les choses et on sait qu'on s'aime. Et ça suffit.
Ouais. C'est aussi une histoire de génération. C'est-à-dire que ma mère a vécu plein de trucs dingues, mais elle ressentait pas forcément le besoin d'en parler parce que déjà elle pensait que ça intéresserait personne. C'est le cas de beaucoup de gens, en fait, je pense, qui racontent pas leur histoire parce qu'ils pensent que c'est pas intéressant. Et souvent, par exemple, les petits-fils ou les petites-filles, elles demandent au grand-père, mais raconte-moi. Et puis la personne me dit, mais non, c'est pas intéressant. Raconte-moi la guerre, mais non, on s'en fout. C'est un truc comme ça. Alors qu'en fait, toutes les histoires sont passionnantes. Et quand j'ai commencé, enfin, avant que de commencer à écrire le livre, j'ai interrogé ma mère très sérieusement. Et je conseille vraiment ceux qui peuvent le faire, en tout cas, d'enregistrer. Les gens qu'on aime et qui ont des histoires à raconter, parce que l'enregistrement amène un côté un peu solennel qui fait qu'on va dire des choses qu'on ne dirait pas forcément dans le cadre d'une conversation courante comme ça.
Vous avez enregistré votre maman ?
Je l'ai enregistré, ouais. On a passé toute une après-midi comme ça à parler. Et puis j'ai essayé de la pousser un peu dans ses retranchements pour qu'elle, voilà. La mémoire fait aussi que quand on parle, les souvenirs reviennent au fur et à mesure. Mais c'est un grand plaisir et honneur de conserver comme ça la voix des gens qu'on aime, parce que la voix est quelque chose de très intime, très personnel. La voix vieillit pas beaucoup, en fait. Et voilà, ça permet aussi, peut-être aussi un prétexte pour la personne qui est interrogée pour mieux se livrer.
Alors finalement, au moment où vous avez fait votre fugue, vous ne saviez pas que c'était de famille ?
Pas du tout, non. Non, puisque la fugue de ma mère, je l'ai su récemment. Et oui, c'était peut-être une espèce d'instinct ou une pulsion de liberté, quelque chose comme ça.
Cette fugue, vous avez eu envie de la refaire après ? Vous avez eu envie de vous isoler ? Parce que vous racontez des choses vraiment très fortes sur ce principe de l'évasion, qui est un refus de là où on n'a pas envie d'aller, mais qui est aussi presque un test de l'affection. Vous racontez comment cette liberté, elle peut avoir un prix aussi, de découvrir la façon dont les autres vont réagir.
Oui, c'est vrai. Après, la fugue, c'est quand même assez dur, parce que c'est radical. Laisse-moi partir, j'ai besoin d'un peu de temps, je me casse, quoi, et je te préviens pas. Donc c'est quand même assez violent comme acte, quoi. C'est un peu destructeur aussi, parce que ça veut dire aussi, en fait, j'arrive pas à te parler aussi. C'est ça qui dit, je peux pas te parler, ou j'arrive pas, ou je ne peux pas. C'est sûr que ma mère, si elle avait raconté à ses parents, ils auraient absolument pas compris, ils auraient pas accepté, ils auraient dit non. Enfin, mon grand-père qui était censé tout décider pour elle, jusqu'à la majorité, jusqu'à un moment où elle trouve un mari, et que là, c'est le mari qui décide. voilà, il n'aurait pas accepté. Donc, et elle-même ne savait pas comment leur parler, comme moi, je ne savais pas parler à mes parents. Donc, il reste plus que cet instinct de liberté qui est un peu destructeur, qui est un peu un test, effectivement, pour les autres. Mais qui se passe pas très bien en général quand même, parce que voilà, c'est quand même un acte d'indépendance qui est vraiment radical. Ouais.
Qu'est-ce qu'on attend en général ? Alors on attend quoi ? On attendrait dans le fond finalement un témoignage d'amour, de soutien. Qu'est-ce qu'on attend quand on fugue ?
On attend pas. C'est vrai que moi j'étais quand même assez égoïste par rapport à ma mère, parce que je lui ai pas donné de nouvelles tout de suite. Et c'est quelqu'un qui, 10 jours après, qui m'a dit, mais donne-lui des nouvelles, parce qu'elle doit être folle d'inquiétude. Et puis moi, c'est vrai que j'étais tout à la découverte de ma nouvelle vie, de mon indépendance, et puis de cette émotion de tout d'un coup d'avoir pris ce pouvoir dans ma vie. Donc je pensais pas trop à mes parents. Mais voilà, je l'ai prévenu, mais c'est vrai que c'était pas pour moi l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'était de découvrir la vie. Elle, évidemment, était folle d'inquiétude, parce qu'elle pensait que j'aurais peut-être disparu dans des circonstances un peu macabres. Et puis mon père, il avait repris sa vie dans ses aventures personnelles.
C'est-à-dire, en fait, vous attendiez quoi ? Vous auriez voulu moins d'indifférence ?
Avec le recul, oui, sûrement. Disons que après, les événements deviennent un peu des légendes dans une famille, donc on ne sait pas à quel point ils sont vrais ou pas. Mais c'est vrai que, en l'occurrence, là, quand je me suis enfui à l'aéroport, mon père était très inquiet sur le moment. Et puis après, son copain Coluche lui a dit, mais laisse-le faire, on a tous fait ça, c'est normal de se casser. Pour lui, c'était normal, quoi. C'était pas un truc très extraordinaire, quoi. Oui, il a 15 ans, il s'est enfui, il est pas là, oui, voilà, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Et il lui a dit, on va pas quand même passer du temps à le chercher partout, on sait même pas où il est. Donc voilà, laisse-le vivre sa vie, quoi. Ce qui était, voilà, quelque part, une marque de confiance qu'on ferait peut-être moins aujourd'hui. On serait hyper inquiet, tout ça. Mais à l'époque, c'était, je pense, plus normal, en fait, quand même, de faire ce genre de choses. Et vu qu'il n'y avait pas de portable, tout ça, les gens disparaissaient des radars, littéralement, quoi. Donc moi, j'ai plus ou moins disparu des radars, mais... et après, oui, c'est vrai que ce qui est un peu choquant avec le recul, c'est que ma mère s'est retrouvée à vraiment vouloir des nouvelles, vouloir savoir où j'étais, enfin, vouloir avoir un contact. Et mon père l'a jamais soutenue, sans un coup de fil ou sans une présence. Ça n'a pas soudé, enfin, ils étaient séparés déjà, mais il y avait quelque chose... qui était de l'ordre de la confiance, c'est-à-dire, bah, oui, voilà, il est parti, il n'est pas, sûrement pas en danger, mais aussi d'une vraie indifférence aussi, c'est sûr. Ouais.
Vous avez raconté votre fugue à votre fille ?
Non, pas vraiment, non. J'ai deux filles, enfin, il y en a une, là, je sais que la plus jeune, elle a lu le livre, mais...
Elle réagit comment ?
Je pense qu'elle est plutôt fière. Après, mes filles, elles n'ont pas fait de fugue parce qu'elles se sentaient pas enfermées dans quelque chose. Il faut avoir comme une nécessité pour faire une fugue. Il faut aussi pas aller très bien, quoi. Donc, si on va bien, on n'a quand même pas raison de s'enfuir du jour au lendemain sans laisser de traces.
Quel mot change entre le moment où on vit cette fugue à 15 ans et où... En fait, on raconte l'histoire des années plus tard. Qu'est-ce qui change dans le récit, dans la façon de le dire ? Vous disiez que vous êtes poète, on le sait, on l'entend dans vos chansons régulièrement. Qu'est-ce qui a changé comme mot, comme langage, quand vous avez écrit ce livre sur cette époque d'il y a 15 ans ?
Les actes qu'on fait dans la vie, on n'a pas forcément besoin de les raconter, parce que c'est grâce aux actes qu'on se construit, qu'on s'invente. Dans notre vie, toute notre vie d'ailleurs, jusqu'à la fin. Et puis le moment où on va écrire, c'est un moment où fatalement on n'est pas dans l'action. Donc on est dans l'exploration de ce qu'on a été, mais finalement de ce qu'on est toujours. Donc c'est toujours une façon de s'inventer, parce que y aurait sûrement d'autres façons de voir les événements du passé. Moi, j'ai essayé vraiment humblement de voir ce qui remontait naturellement à ma conscience et de le transformer, enfin de pas trop le transformer d'ailleurs, juste de le montrer en fait. Ça m'a plus touché sur, en tout cas en termes d'écriture sur ma mère et mes parents de se rendre compte qui ils étaient aussi, parce que ça c'est un mystère aussi de qui sont nos parents avant notre naissance, comment ils ont été en tant que jeunes gens. Bon, évidemment, on oublie ça, parce que nous, on voit les parents qui vieillissent, qui perdent un peu les pédales, on est un peu plus rapide qu'eux, donc nos parents nous énervent toujours un peu, quoi qu'il arrive, on est toujours un peu énervé. On les aime, mais ils nous énervent. Donc, là, on parle d'une époque où ils n'étaient pas encore justement énervants, où ils étaient eux-mêmes complètement. Et ça, c'est joli, je trouve, de toucher ça, de penser à ses parents comme ça, comme des êtres humains normaux, quoi, et pas juste des parents, pas juste un mère, une père, une mère, un père. Des êtres en transformation, en fait, en invention d'eux-mêmes. Je pense que c'est quelque chose de, même, je dirais, peut-être de nécessaire, en fait, de penser à ses parents comme ça. Ouais.
On sent bien dans votre livre que vous auriez adoré être super copain avec votre mère à 18 ans quand elle a fait sa fugue. Ça vous aurait bien plu.
Ah, peut-être, oui, sûrement. Sûrement que. Oui, j'imagine que je me serais bien entendu avec elle, ouais, parce que elle avait une vraie vie intérieure aussi. Elle aimait les artistes et tout ça, dans un milieu vraiment ouvrier, très très simple, sans aucune ambition artistique. Quoique mon grand-père, comme collectionner un peu les trucs qu'on achetait là, sur les collections. Alors, il y avait la collection d'Émile Zola, Victor Hugo, tout ça, mais dans une bibliothèque bien fermée, en verre, là, tout ça. Mais je sais pas, il avait quand même une sensibilité particulière. Ouais. Mais elle se sentait totalement incomprise, donc oui, je me serais sûrement bien marré avec elle, ouais, peut-être.
Vous écrivez aussi dans votre livre que vous ne pouvez pas retourner en ville parce que la ville, elle pousse à nourrir les complexes.
Oui, ça, j'ai écrit ça à 15 ans. J'essaie de me justifier par rapport à ma mère. Mais c'est vrai qu'en tant que petit Parisien, vraiment d'un Paris qui, à l'époque, était encore populaire, donc qui avait grandi dans le bitume et tout ça, tout d'un coup, me retrouver pieds nus... on me dit à un moment se lever à 6h du matin sur le bateau pisser dans l'eau comme ça qui était transparente aller à la rive à la nage manger, cueillir des mangues fraîches ça c'était quand même pas mal hein.
La ville elle vous agresse toujours un peu aujourd'hui?
Oui toujours et parce que même de plus en plus parce que j'aime profondément la nature et j'aime le silence et j'aime la beauté, j'aime quand ça sent bon, j'aime la solitude aussi, et puis j'aime la vie aussi, de sentir la vie qui est dans toute la nature. La nature est un organisme vivant qui respire, et j'aime sentir ça, parce que peut-être que c'est nous, en fait, nous on est ça. Donc ça nous rappelle qui on est, qu'est-ce qu'on est. Et c'est plus difficile en ville, ouais.
Dans le même temps, on sait aussi dans votre carrière, on le voit bien, que vous aimez beaucoup collaborer avec d'autres. Vous vous nourrissez aussi beaucoup de collaboration, de l'esprit créatif des autres. Il est aussi question de ça dans ce livre, parce que malgré tout, Bach, vous le montrez bien, vous nourrit.
Ah oui, bien sûr. Bah oui, c'est... Même quand on est seul, justement, là, quand j'écris ce livre et que j'étais seul, j'étais rempli d'esprit, en fait, d'esprit qui venait me visiter... Et là, la solitude est un mot totalement inadapté parce qu'en fait, on est rempli de plein d'histoires, plein de gens, plein d'artistes, plein de... Et puis, d'ailleurs, les livres, c'est fait pour ça. C'est des communions très mystérieuses d'esprit à esprit à travers la langue. On est intime, comme ça, avec une expérience d'un Soudanais, d'un Égyptien, d'un Japonais, d'un Français ancien. On communique comme ça, de manière très directe et très subtile avec l'esprit des autres. Et puis après, la musique, c'est encore quelque chose aussi de très collectif, qui n'est pas du tout intellectuel, qui est pas du tout, très sensoriel aussi. On communique de cerveau à cerveau, on invente la musique en même temps qu'on est sur scène. Là, je suis très content demain de faire cette magnifique expérience avec l'Orchestre d'harmonie de Bordeaux. Donc, il y a 50 musiciens. C'est un vieil orchestre bordelais.
Sur les quais demain soir à 21h.
Oui, 21h30, on joue là. Et on a arrangé plein de chansons. Et voilà, il y a toutes sortes de gens. Donc, c'est une communion très joyeuse avec... Le chef d'orchestre, il est vraiment génial, Pascal. C'est des gens qui aiment profondément la musique, qui viennent d'horizons très, très différents du mien, mais on arrive à connecter vraiment et à créer une musique ensemble avec ces 50 cuivres. Là, c'est vraiment génial. Ouais.
Vous parlez aussi beaucoup de Joseph Conrad dans votre livre, du principe de l'expérience, de l'aventure, de la quête. Et en fait, votre livre fait vraiment écho à ce principe de la quête, des récits de Joseph Conrad. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous en faites un écho avec le ressenti, vraiment avec le corps. C'est-à-dire que c'est vraiment un parallèle, ça donne envie de relire Joseph Conrad déjà. Est-ce que c'était dans les lectures qui vous ont le plus nourri, qui vous ont amené à grandir ?
Ouais. Après, il y avait une littérature, quand j'étais adolescent, qui m'a beaucoup marqué et influencé pour cette histoire de fugue, c'était Hermann Hesse. Mais alors, c'est des livres qu'on lit vraiment adolescent. Je ne sais pas à quel point ça résiste à l'âge adulte, parce que c'est des histoires d'initiation, quoi. C'est passer un cap, c'est aller vers l'inconnu, c'est devenir soi-même. Je sais que ce livre Siddhartha de Hermann Hesse m'avait donc un auteur allemand des années 10, 20, 30, ça m'avait beaucoup nourri dans ce désir d'indépendance comme ça. Conrad Conrad, c'était plutôt venant Voyage au cœur des ténèbres, d'aller vraiment vers l'inconnu, d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, ce danger qu'on peut percevoir, mais qui est en même temps très excitant, quoi. Et puis dans l'art aussi, de il y a cette qualité chez certains artistes comme ça, Conrad ou même Fellini, même si vraiment rien à voir, mais de rideaux rouges qui s'ouvrent et puis tout d'un coup on rentre dans un monde imaginaire qui est vraiment de l'ordre d'un voyage où on ne sait pas du tout où on va aller, on ne sait pas du tout comment les choses vont finir. Il y a vraiment cette idée d'odyssée, quoi, de voyage où il va arriver plein d'événements. Ça m'a effectivement beaucoup marqué parce que je crois beaucoup à l'idée de surprise, en fait, d'avoir un moment des choses qui apparaissent qu'on n'avait pas prévues.
C'est-à-dire finalement plus le voyage que l'arrivée.
Bah oui, l'arrivée n'est pas très intéressante. Le retour de la fugue est toujours assez pathétique par rapport au départ qui est plein d'inconnus, justement, de choses à découvrir. On revient toujours la queue basse, quoi qu'il arrive. Et puis, bon, on reprend le fil. Mais au moins, on a vécu ça. Et ce voyage nous a transformés, quoi, bien sûr.
Est-ce que vous écrivez de la même façon que vous écrivez de la musique quand vous écrivez ce livre? Est-ce qu'il y a une musicalité, un rythme quand vous écrivez? Est-ce que les mots chantent?
Oui, bien sûr, les mots chantent. Les mots sont tout. À ce niveau-là, tout est de la musique, parce que tout est rythme, tout est musical. Et puis, évidemment, une phrase est complètement un événement musical, un mot et une musique aussi, bien sûr. Mais après, c'est quand même pas la même énergie, parce que pour moi, la musique, c'est vraiment recevoir des choses, c'est quelque chose d'immédiat, comme ça, de très simple, très naturel, très dans l'instant. Même une chanson, on peut écrire une chanson assez rapidement, quand même. C'est un paysage qui s'ouvre, qu'on va partager, ça va suggérer un espace, une histoire, un personnage. Alors que l'écriture, c'est vraiment un travail quand même sur la langue, beaucoup, c'est pas mal plus méticuleux déjà, parce qu'il y a cette masse dans le récit, cette masse de mots, cette masse d'histoires qu'il faut organiser. Et puis cette archéologie aussi de ce qui se passe, de l'histoire, de descendre au fond des choses, au fur et à mesure, progressivement, de comprendre, là, en l'occurrence pour ma mère, ce qu'elle pouvait ressentir, quel a été ce voyage. Ils ont pris le train, ils ont pris le bateau, après quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà, cette exploration du temps, en fait, qui permet, voilà, j'ai vraiment eu un plaisir immense à écrire, parce que ça m'a permis cette exploration du temps, dans l'écriture et dans la lecture, que permet beaucoup moins la musique. La musique, c'est vraiment partager une vibration dans le moment. En fait, c'est très complémentaire, les deux, pour moi. Parce que la fugue de ma mère, par exemple, je peux la raconter en 4 minutes. Et puis voilà, c'est marrant, c'est fou. Alors que l'écriture, ça permet justement de vraiment de descendre. Et pas de tout analyser, mais de revivre tous ces moments qui sont devenus en fait des moments oniriques, parce que tous les souvenirs sont oniriques, tous les souvenirs ressemblent à des rêves, et donc ils sont flous, les contours sont flous, mais justement le fait que les contours soient flous permet aussi peut-être de toucher le cœur de ces événements, parce qu'on a oublié la précision des choses et qu'on peut arriver vraiment au cœur du ressenti, en fait. C'est vraiment un beau voyage.
Ça vous a pas donné envie de dessiner?
Si, mais après tout, ouais, dessiner, c'est très chouette, mais enfin, c'est malheureusement un art que je maîtrise pas du tout.
Ouais. Bon, vous dites ça, mais en fait, on sait bien quand même, vous êtes vraiment aussi tout à fait porté par l'image. On le voit dans vos clips, ouais. Il y a une vraie résonance entre l'image, le son, les mots, qui est vraiment la pierre angulaire de tout ce que vous faites.
Ouais. Puis pour les clips, j'ai eu la chance de travailler avec une artiste qui s'appelle Léonore Mercier, et c'était une grande chance, parce que là, c'était un échange. Elle a pu plaquer son imaginaire aussi, par exemple sur les trois clips qu'on a fait ensemble, qu'elle a fait sur le... Amour chien fou, la boxeuse amoureuse, Assassine de la nuit, Tokyo Kiss. Elle, elle a amené sa propre vision, qui n'était pas forcément la mienne, mais c'était une grande joie de découvrir une relecture de ses chansons, un enrichissement, son propre univers à elle, sa propre vision aussi de femme, son propre art, et de mélanger voilà, nos arts pour arriver à des nouvelles images. C'était super à faire.
Est-ce que vous croyez aux signes, Arthur H ?
Oui. Bah oui, il y a des signes qui arrivent, qui sont indéniables.
Alors, quand vous avez été dans cette caravane, en reprenant toute cette histoire, quels souvenirs vous allez garder de ces moments d'écriture ?
Des moments en dehors du temps, des moments d'un plaisir immense, en fait, un plaisir qui était arrêté par rien, en fait. Il n'y avait pas de choses qui venaient de dire ah, « bah, faut retourner, faut faire ci, faut faire ça ». Dire le j'écrivais, j'étais bien, le soir tombait, j'allumais pas la lumière, j'allumais une bougie, et je restais dans cette atmosphère-là, et je voyais des chevaux passer devant la roulotte, et tout d'un coup, il y avait un orage au loin qui se rapprochait, donc j'avais eu la capacité de rester complètement dans un univers très magique, en fait, qui est l'univers de la vie, quoi, qu'on laisse la vie tranquille, qu'on la dérange pas. Et puis après, avec cette exploration des souvenirs aussi qui étaient beaux, de les revivre, de les réinventer aussi, parce que c'est quand même une réinvention. C'est pas des souvenirs précis, c'est des souvenirs poétiques. De m'acheter des bons légumes du coin, me faire de la nourriture hyper simple, hyper bonne, avec de l'huile d'olive, là, des tomates du coin. Manger vraiment très très simple, vraiment le confort minimum. La roulotte était très déglinguée. J'avais une moustiquaire qui laissait passer, qui était très très ouverte aux moustiques, très open pour les moustiques. Donc, il n'y avait aucun confort et pourtant il y avait tous les conforts. Quoi.
Merci Arthur H.
Merci beaucoup.